Europe 1.
La France bouge.
Carole Ferry.
Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge, ravie de vous retrouver, de partir avec vous à la découverte de celles et ceux qui font bouger la France, de celles et ceux qui entreprennent et participent à la relance. Ensemble, on écoute le monde changer. À mes côtés, Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry, bonjour à toutes et à tous. L'économie qui redépare, c'est vrai aussi dans l'aérien. Après être resté cloué au sol pendant 18 mois, les avions recommencent à voler. Nous étions au mois d'août à environ 70% du trafic de 2019. Alors comment tient se présente la rentrée? Nous poserons la question au président de Vinci Aéroports, numéro 2 mondial des aéroports. Il s'appelle Nicolas Notebar.
Et si vous voyagez régulièrement, vous avez sans doute déjà vécu la course pour arriver à l'heure à l'aéroport et surtout pour réussir à vous garer. Nous vous ferons découvrir Hector, un service qui s'occupe d'aller garer votre voiture à votre place. Pour eux aussi, l'activité redémarre.
Alors pour ceux qui parviennent quand même, malgré tout, à arriver en avance à l'aéroport, vous avez sûrement fait déjà une petite pause au relais pour acheter un magazine, des chewing-gums ou un roman. Et tiens, est-ce que vous savez depuis quand ils existent? Pour être très honnête, on l'a découvert nous-mêmes. Alors que c'est une marque du groupe Lagardère, depuis 1852, ce sera notre saga du jour.
Et bien sûr, nous accueillerons notre trophée de l'avenir Europe 1 La France Bouge, sélectionné avec la CCI. À ne pas rater si vous aimez prendre l'apéro, mais pas forcément boire de l'alcool. Nous accueillons aujourd'hui Wiza, une nouvelle marque de gin tonic, rhum citron ou encore spritz sans risque d'ébriété.
Parfait pour vous du coup, Carole. Enfin, demain au travail, nous serons avec la créatrice de Gobi, vous savez, ces fameuses gourdes réutilisables, et ils font une initiative pas mal pour sauver la planète.
Bienvenue dans La France Bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram ou encore Europe1.fr.
Europe 1.
Et comme chaque jour, on est très heureux de vous accueillir là, en direct, autour de la table de La France Bouge, de 13h à 14h sur Europe 1. Et même si c'est pas facile encore du côté de l'aérien, ça redémarre quand même. On va faire le point avec notre invité exceptionnel, jusqu'à 14h.
Notre invité, Nicolas Notebar, le président de Vinci Aéroports. Bonjour.
Bonjour.
Alors Vinci Aéroports, c'est 45 aéroports dans le monde, dont 11 en France. Quand on a atterri à Osaka au Japon, à Santiago du Chili ou à Faro au Portugal, on atterrit chez vous. Vous êtes aussi le directeur général de Vinci Concessions, dont les aéroports, donc les aéroports, mais également les autoroutes. Beaucoup de sujets à aborder, on va dire. On va commencer par vous demander tout simplement comment vous vous portez aujourd'hui. Vous avez traversé 18 mois de cauchemar avec le Covid, des aéroports quasiment vides. Depuis cet été, le trafic redémarre. En France, tout au moins, on en est où exactement?
Alors d'abord, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, parce que c'est un moment pour les équipes de nos aéroports qui est très important. Il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de travail, notamment pour respecter les nouvelles normes sanitaires des aéroports. Beaucoup aussi de travail de conviction de nos passagers. Et là, effectivement, l'été, c'est un redémarrage. Et comme toujours dans les équipes de Vinci Aéroports, ils préfèrent quand il y a des passagers, quand il y a des clients, quand il y a des sourires. Et l'été a été effectivement un peu plus dynamique que les périodes d'avant.
Vous avez présenté justement hier vos chiffres, comme on dit, de trafic pour le mois d'août. On est à 70% de ce qu'on avait réussi à faire en 2019, qui était une année record. Vous vous dites quoi? C'est pas si mal dans le contexte? C'est encourageant?
C'est une étape et c'est surtout très divergent entre les zones du monde. Je dirais autour des États-Unis, qui ont vacciné assez tôt, et dans la zone un peu Caraïbes, Amérique centrale, on commence à avoir des pays où on retrouve carrément le trafic de 2019. À l'inverse, en Asie, où les pays ont vacciné un petit peu plus tard et où ils ont fermé les pays, le trafic est resté très à l'arrêt. L'Europe, c'est un peu intermédiaire. Avec un grand succès cet été, ces règles communes au sein du continent européen se passent pour voyager, qui a été reconnu en gros de la France au Portugal, en Italie, en Grèce. Il a bien marché en Europe et ça a permis non pas de retrouver le trafic de 2019, mais de faire beaucoup mieux qu'en 2020 et surtout que les Européens, bien vaccinés, retrouvent leur liberté de voyager cet été.
Oui, parce que quand on disait 70% du trafic, c'était pour la France. Hein. En France, on est à peu près à ça.
Plus exactement, c'était les mouvements d'avions, c'est-à-dire c'était les vols. Ouais. Voilà, c'est ce que dit Eurocontrol, il y a à peu près 70% des mouvements d'avions en Europe qui revenaient. En trafic, c'est un peu moins.
Oui, mais pourtant, quand on regarde les performances européennes de Transavia, qui est la filiale low cost d'Air France, ils sont assez nettement au-dessus de ce qui avait été prévu quelques mois en avance. EasyJet dit aussi que ça repart un peu. Ryanair dit même qu'ils ont recommencé à gagner de l'argent sur cet été. Donc, il y a quand même un retour à meilleure fortune, si on peut le dire ainsi, Nicolas Notebar.
Tout à fait. Je vais vous citer un exemple français. Nous gérons l'aéroport de Hyères-Toulon, Bah, hier, Toulon, au mois de juillet-août, on a fait à peu près le trafic de 2019, avec un trafic domestique français et avec les compagnies que vous avez citées. Transavia, qui est un nouvel arrivant sur l'aéroport de Toulon, EasyJet, qui a ouvert aussi cet aéroport, ont mis autant d'avions et les passagers ont été au rendez-vous à Toulon.
Alors, ce qui reprend, c'est surtout le tourisme, moins le voyage d'affaires.
Oui, il y avait cet été, après autant d'attentes et de périodes de confinement, encore une fois, les Français, les Européens vaccinés voulaient bénéficier de ce plus, d'avoir fait des efforts et de pouvoir retrouver leur liberté. Donc ça, on l'a vu pour le tourisme et aussi ce qu'on appelle dans notre jargon visiter ses amis et sa famille.
Voilà, y a du tourisme. Ils sont partis où les Français cet été ?
Alors, ils sont partis beaucoup en France, beaucoup en Europe. En France, par exemple, en Corse, Méditerranée, mais aussi dans toute la zone européenne où ils étaient les bienvenus, en Grèce, en Italie. Et vous savez qu'on gère les aéroports du Portugal. Bah, le Portugal, c'est un bon exemple. Des Français allés en Portugal, mais aussi tous nos compatriotes d'origine portugaise, première, deuxième génération, qui, après 18 mois d'attente, pouvaient retrouver leurs grands-parents, leur famille d'origine. Voilà, c'est ça le trafic qui a bien repris. Le trafic à faire, bah, c'est variable. Aux États-Unis, c'est-à-dire entre les entreprises américaines business, trafic business américain, ça a bien repris. À l'intérieur de la France, ça commence à reprendre. Mais dès qu'il faut franchir des frontières, ce dont on a besoin, c'est que les règles soient harmonisées entre les différents pays. C'était le cas en Europe, pas encore entre Europe, États-Unis, Asie.
Là, vous appelez du coup à un pass sanitaire mondial. Vous dites, pour une fois qu'en France, on a fait un truc qui marche pas trop mal, essayer de dupliquer ce qu'on a fait pour que ça reparte vraiment ?
Oui, ce qu'on dit avec les associations d'aéroports et de compagnies aériennes, c'est qu'il faut donner des libertés nouvelles. On est passé des phases de confinement, d'interdiction entre pays, au fait que l'effort de s'être vacciné, d'avoir fait attention, mérite la possibilité de voyager, pas seulement au sein d'un pays, mais d'un espace où on applique les mêmes règles. Alors ça commence avec l'Europe continentale. Maintenant, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, qui vaccinent tous très correctement, doivent établir entre eux des passerelles.
Moi, j'ai été étonné ce matin par des chiffres chinois. Le gouvernement, alors on croit ou pas ce qu'ils disent, ils disent qu'ils sont à 70% de la population totalement vaccinée avec leur vaccin, qui certes n'est pas totalement reconnu dans tous les pays du monde. C'est rassurant là aussi pour que le pays s'ouvre à nouveau ?
Je crois que l'évolution positive des taux de vaccination est rassurante. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a des acceptations mutuelles entre pays des mêmes vaccins.
C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à accepter le vaccin du voisin. Est-ce qu'il y a des négociations ? On essaye de se mettre d'accord ? Je ne dis pas que ce soit juste ou pas juste, hein, mais ça en est où, des négociations ?
Les pays essayent de respecter les mêmes règles pour les mêmes vaccins. Entre Europe, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Pfizer, Moderna, AstraZeneca sont reconnus de la même façon. Même entre ces pays, avec les mêmes vaccins, il n'y a pas encore les mêmes droits. Vous ne pouvez pas encore voyager librement entre la France et les États-Unis avec un vaccin qui est pourtant le même qu'aux États-Unis. C'est ça la première étape.
Alors que nous, on accepte les Américains.
Tout à fait.
Pour le moment, il n'y a pas la réciprocité.
Mais voilà. Ça discute ?
Ça discute. La preuve, c'est qu'après beaucoup d'efforts, l'Europe, parfois contestée, a très bien fonctionné cet été sur cet angle-là. La France a apporté sa technologie, les autres pays européens avec les mêmes intérêts, des intérêts touristiques. Et la bonne nouvelle, fin août, début septembre, c'est qu'il n'y a pas eu de pic d'épidémie en Europe, malgré cette mobilité d'Européens vaccinés.
Oui, mais là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça va pouvoir marcher en dehors de l'Europe.
Preuve du succès européen, c'est que maintenant, on est légitime à dire aux Britanniques, qui sont assez peu venus en Europe cet été, aux Américains, écoutez, ça a marché au sein de l'Europe, on a les mêmes outils, on a les mêmes vaccins, maintenant, libérons-nous avec les mêmes règles entre les différentes zones du monde.
Vous êtes une très bonne vigie, hein, bien évidemment, pour la suite. Parce que vous, votre job, c'est de faire tourner l'aéroport. C'est vous qui voyez avec les compagnies le nombre de vols ou ce genre de choses qu'elles peuvent installer. Là, pour les mois à venir, les compagnies vous disent quoi ? On revient à quasiment zéro ? Ou vous sentez que cet optimisme de l'été leur donne quelques ailes pour peut-être mettre un petit peu plus de vols que ce qui avait été jusque-là prévu ?
Je pense qu'elles sont dans un équilibre. Elles savent que les restrictions et surtout la levée des restrictions sont le principal challenge à la mobilité. La demande de mobilité, elle est là. On a tous vu pendant 18 mois que le confinement, c'est-à-dire rester chez soi et immobile, c'est pas dans notre nature. On a envie d'aller voir nos amis, on a envie d'aller voir nos équipes quand on a une entreprise, on a envie d'aller voir nos clients. Et cette libération, dès que les restrictions se lèvent, elle s'opère, évidemment, dans le respect des vaccins, des règles sanitaires. Aujourd'hui, il faut franchir cette nouvelle étape et les compagnies comme nous appellent à ce qu'entre grandes zones du monde bien vaccinées, on libère avec les mêmes règles. Je pense que c'est en bonne voie. Et donc, les compagnies, elles programment des vols. Les passagers, ils réservent. Après, c'est important que les grands blocs de pays suivent en appliquant les mêmes règles.
Nicolas Notebaert, vous êtes le président de Vinci Airport et notre grand témoin du jour. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1,
la France bouge.
Carole Ferry,
Emmanuel Dutheil.
La France bouge et reprend l'avion. Si vous nous écoutez depuis le début de cette émission, un trafic qui est encore loin d'être normal cet été. Mais par exemple, si on prend la France, on était à 70% du trafic de 2019 du côté des aéroports de Vinci, qui est un des plus grands au niveau du monde, puisque 45 aéroports dans le monde, 11 notamment en France. Et c'est notre grand témoin du jour aujourd'hui, le patron de Vinci Aéroports, Nicolas Notebaert.
Et nous sommes également avec Manoël Roy. Bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous connaissez bien les aéroports, puisque vous êtes le cofondateur d'Hector 100H, on le précise, un service qui propose de récupérer notre voiture au dépose-minute de l'aéroport et de nous la rendre au même endroit, tellement pratique. C'est un service de voiturier en fait.
Exactement, comme au restaurant, vous déposez votre véhicule au dépose-minute, nous on la prend en charge, on va la garer pour vous et on vous la restitue au même endroit à votre tour.
Alors comment vous savez qu'on arrive au dépose-minute? On a réservé quoi, un créneau horaire ou juste au moment où on entre dans l'aéroport, on a un système de bip? Enfin, comment ça fonctionne?
Ouais, vous réservez sur hectorparking.com, je fais un peu de pub, ou notre app, et vous convenez d'une heure de rendez-vous que vous pouvez un peu ajuster le jour même en contactant votre voiture directement. Vous vous rendez au dépose-minute, nous on va vous reconnecter parce qu'on va vous demander votre plaque d'immatriculation typiquement au moment où vous arrivez, la couleur de votre véhicule, donc on va vous faire signe.
Et vous avez un beau t-shirt Hector?
On a un très beau pull jaune, ouais exactement, voilà. on est très bien reconnaissable sur les dépose-minutes. On va faire un état des lieux de votre voiture, ensuite on va aller la stationner. Si vous avez pris des options d'entretien ou de nettoyage pendant votre réservation, on va nettoyer votre voiture, on va l'entretenir, on peut la faire réviser, des choses comme ça. Et à votre tour, on va anticiper votre tour avec votre numéro de vol ou votre numéro de train si vous êtes dans une gare, et on va acheminer le véhicule au dépose-minute au bon moment pour que vous puissiez repartir librement dans votre véhicule au retour de votre voyage.
Alors vous aussi, ça a dû être morne pleine là pendant quelques mois. Est-ce que ça va mieux? Les avions redécollent, mais il manque encore le trafic d'affaires. Donc
ouais, c'était un sacré challenge pour toutes les boîtes du secteur, évidemment. On est passé de immense croissance à trafic zéro du jour au lendemain, donc c'était assez difficile. Là, depuis le début de l'année, ça repart quand même assez vite avec la vaccination. Aujourd'hui, nous, on est à peu près aussi à moins 30% de notre niveau d'activité de 2019. Ça va en s'améliorant tous les mois. On espère que l'an prochain, on sera au niveau d'activité de pré-crise. Quoi, donc 2019.
Ce qui veut dire que quand même, dans une start-up comme vous, être étal, ce n'est pas un bon signe. Il faut faire 30-40% de croissance normalement chaque année quand on est en phase de démarrage.
On faisait entre 50% et 100% de croissance chaque année avant. Donc là, on a plutôt fait des chiffres négatifs, ce qui n'était pas commun dans une start-up. Après, voilà, on a su s'adapter, on a diversifié un peu notre activité.
Diversifié, c'est-à-dire qu'est-ce que... Là où vous avez commencé à proposer de comment faire la maintenance de la voiture?
Non, ça, on le faisait avant, non, mais on a opéré un nouveau service à destination de la logistique automobile, qui est un business qui n'a rien à voir avec le travel, mais l'objectif, c'était justement de se décorréler un peu du travel et du coup, de convoyer des véhicules pour des professionnels de l'auto. Donc, rien à voir, mais ça nous a permis de faire pas mal de chiffre d'affaires pendant le Covid.
Alors, revenons justement à nos voitures, parce que c'est bien gentil, vous la prenez au dépose-minute, vous la ramenez au dépose-minute, mais elle fait quoi pendant ce temps-là ma voiture? Elle va où?
Donc on va la garer dans des parkings situés à proximité. Nous, on a une exigence, c'est qu'ils soient sécurisés et pas trop loin, parce que c'est ce que le client veut. Parfois, on arrive à faire des partenariats avec l'aéroport ou la gare en question. C'est le cas justement avec Vinci à l'aéroport de Lyon, avec qui on a un grand partenariat. On a aussi travaillé avec eux une époque à Nantes et on discute encore d'opportunités pour le faire là-bas. Sinon, ça peut être des parkings qui sont situés encore à proximité, à une périphérie immédiate, on va dire à moins de 5 km. On la laisse là-bas tout le temps de votre séjour, on l'entretient et on la nettoie parfois. Et on va vous la ramener à votre tour au dépose-minute.
Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que si on
c'est
va
la seule vraie question.
Ouais. Que quand on le fait tout seul?
Ouais, alors ça va dépendre un peu de la période et de la zone sur laquelle vous réservez. Pour vous donner un exemple, nous, c'est environ 50€ le week-end et 100€ la semaine.
En plus du prix du parking?
Non, tout compris avec votre voiturier inclus. L'objectif, en fait, c'est d'être accessible pour notre cœur de cible qui est les familles. Parce que si vous avez des enfants, vous savez que partir en voyage avec vos bagages et tous vos enfants, c'est un moment de stress difficile à gérer. Et du coup, nous, c'est le bon plan pratique. Vous déposez votre voiture au plus près du terminal, vous n'avez pas trop à vous soucier du reste. Donc voilà, on essaie de faire des tarifications accessibles pour cette cible. Et voilà, 50€ le week-end.
Aujourd'hui, vous êtes dans quelle ville? Vous avez cité notamment l'aéroport de Lyon. Où est-ce qu'on peut vous trouver?
Écoutez, dans toutes les grandes villes de France, en gros, parce qu'on essaye de se développer en priorité dans les villes où il y a beaucoup de trafic, donc Orly, Roissy, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, j'ai cité Lille également.
Et vous faites aussi les gares.
Et dans chaque ville où on ouvre un aéroport, on essaye d'ouvrir la gare pour proposer le service à nos clients aussi quand ils prennent le train.
Nicolas Notbar, je rappelle que vous êtes le patron de Vinci Aéroports. Pour vous, c'est capital, quand vous gérez ces aéroports, d'avoir tous ces services afférents, ça rend l'aéroport un poil plus sympa ?
Tout à fait. Nous, on choisit l'innovation, mais pas l'innovation tout seul. Et des start-up comme Hector, avec ce valet parking ou ce service additionnel pour se garer, c'est super pour un certain nombre de segments, les familles ou certains passagers à faire. On a aussi travaillé, par exemple, un robot voiturier. On a une première mondiale avec une autre start-up, Stanley Robotics, qui fait qu'elle prend les voitures et elle les place pour avoir le maximum de place à l'aéroport. Évidemment,
il fait ça en France ?
On fait ça à Lyon, exactement, qui est notre plateforme d'innovation. C'est une ville, une région très innovante. Et nous, on a choisi d'en faire un lieu d'innovation. Je vous donne un dernier exemple. On a fait une première mondiale à Lyon, qui est le parcours biométrique complet. Ça s'appelle Mona. On s'enregistre chez soi. Et comme ça, on passe tous les filtres de la sécurité. L'innovation, c'est l'avenir. Ces aéroports, au départ, c'est des objets un peu froids, un peu mécaniques. Et travailler avec des jeunes start-up pour offrir ces services additionnels, c'est notre politique et ça marche bien.
Mais là, vous parlez de ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas derrière, dans le cœur d'un aéroport, nos bagages. Parce que s'il y a bien un truc qui peut tous nous énerver aussi, c'est d'attendre pendant 2h15 nos valises une fois qu'on descend d'un vol. Vous travaillez aussi beaucoup là-dessus. Vous avez, dans certains aéroports, je pense au Cambodge par exemple, vous avez installé des trucs hyper modernes où ça permet d'aller un poil plus vite.
Bah, partout dans le monde, il y a des équipements, c'est important, mais l'humain, c'est tout aussi important, il faut les deux. Donc il y a des équipements, il y a quelques jours, on a malheureusement tous eu en tête le 11 septembre. Depuis le 11 septembre, la sécurité des aéroports a été renforcée avec des équipements, et tout le monde le sait, il s'est rien passé de notable en comparaison du 11 septembre depuis 20 ans. Mais c'est aussi beaucoup d'humains, parce que la technologie ne suffit pas. Il faut des personnes qui arrivent à réconcilier, identifier et offrir ce service. Parfois, même si le bagage arrive, les personnes ne sont pas habituées à ces écrans, ces équipements. Et donc, on croit à la présence humaine et au contact avec les passagers. Et on a des taux de récupération de bagages parmi les plus élevés du monde. Vous avez parlé du Japon tout à l'heure. Le Japon, par exemple, nous a appris cette réconciliation,
c'est les leaders au monde.
Voilà, très grande qualité de service. Et c'est notre vision d'un réseau mondial. On apprend les uns des autres. À Lyon, on est beaucoup dans cette logique très humaine, très start-up de qualité de service, à l'image d'Hector. Au Japon, l'aspect technologique est prégnant. Nous, on essaie de
combiner
tout ça.
Vous allez beaucoup piocher à l'étranger comme ça, des idées que...
Il me semble que c'est l'avenir, quitte à avoir un réseau. Il faut motiver les équipes. Nous, on a un modèle très décentralisé qui est celui du groupe Vinci. Ben, quand il y a des trucs très sympas, à Lisbonne au Portugal, à Osaka au Japon ou aux États-Unis, ben, on essaye rapidement de les proposer, pas de les imposer. Et on s'aperçoit que les idées des autres se cultivent.
Merci Manuel Roy. Vous êtes donc le cofondateur d'Hector sans H, un service de voiturier dans les gares et les aéroports des grandes villes de France, on va dire.
C'est ça.
Et Nicolas Notbar, le patron de Vinci Aéroports, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1.
La France bouge.
Carole Ferry.
Emmanuel Dutheil.
Elle bouge et elle prend donc l'avion quand même, cette France. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Notbar, le directeur général de Vinci Aéroports. On ne le sait pas toujours, hein, mais c'est le numéro 2 mondial de la gestion des aéroports. 45 aéroports dans le monde, 11 en France. Et le numéro 1 est également français, puisque c'est le groupe ADP qui est le numéro 1 mondial de la gestion des aéroports. Alors là, on a beaucoup parlé du trafic aérien. Pour nous, d'une certaine manière, les particuliers, le business. On a peut-être oublié le fret, c'est-à-dire le transport de marchandises. Parce que là, on n'arrête pas d'entendre qu'il n'y a plus de bateaux pour ramener les marchandises, qu'on n'a jamais vécu une pénurie comme celle que l'on vit en ce moment. Certains groupes, on l'avait dit sur Europe 1, par exemple Michelin, ont dû prendre des avions pour amener du caoutchouc, ce qu'ils font bien évidemment traditionnellement jamais. Vous vivez, vous aussi, du coup, une saison assez historique pour le fret ?
Le fret aérien marche bien. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Il a été particulièrement utile au début de la pandémie, parce que tous les masques qu'on utilise, ils sont arrivés en avion. Nos aéroports, à Lyon, à Nantes et partout dans le monde, cueillaient énormément de masques, mais aussi des transferts de matériel médicaux, puis les vaccins qui sont arrivés par avion. Quand il fallait aller vite et avec des configurations complexes, le fret aérien marche bien. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la reprise de l'économie et tous les domaines de l'économie nécessitent beaucoup de transport. Je prends un exemple, on gère les aéroports du Kansai, la région Osaka-Kobe, c'est une grande zone de production mondiale. Il y a des entreprises comme Panasonic, toute la technologie japonaise. Et ben, tout ce qu'ils envoient partout dans le monde, des pièces détachées, des objets fabriqués au Japon par du fret aérien. Je vais vous donner un deuxième exemple. Dans les prochains aéroports qu'on va gérer, il y a un aéroport qui s'appelle Manaus en Amazonie. C'est la plateforme de confection des équipements. Des pièces détachées arrivent du monde entier à Manaus. Et là, vous avez une plateforme de confection, des téléphones mobiles, des écrans de télévision.
Mais ça marche mieux que d'habitude en ce moment ?
Ça marche mieux que d'habitude en ce moment. Vous avez cité Michelin. On gère l'aéroport de Clermont-Ferrand. Michelin, c'est une grande entreprise française qui a choisi de rester basée en région, d'avoir son centre de décision en région. Eh bien, ils utilisent cette plateforme mondiale et ils ont besoin évidemment de l'avion pour organiser leur flux d'équipements et nourrir les usines.
C'est quoi le rapport de coût entre le transport maritime et l'aérien ? Parce que vous, ça reste vraiment que pour de l'urgence qu'on l'utilise quand même, en gros.
C'est utilisé pour de l'urgence, du luxe et des chaînes industrielles. Prenons l'exemple de deux aéroports que nous avons qui sont Nantes et Saint-Nazaire.
Et c'est combien de fois plus cher que le transport maritime ?
Pour que ce soit clair. J'ai pas d'ordre de grandeur précis, mais...
Surtout qu'en ce moment, vous pouvez bien facturer quand... si c'est vraiment urgent.
Alors, nous, on facture toujours le même prix à l'avion. Mais en gros... quand vous avez les usines d'Airbus à Nantes et à Saint-Nazaire, les pièces détachées arrivent en avion et ça offre une rapidité dans la chaîne de production qui est assez
importante.
Vous ne
direz pas combien ça coûte. Ok, donc vous avez 45 aéroports aujourd'hui, on l'a dit hein, plusieurs fois à travers le monde. Vous vous apprêtez à en avoir 8 de plus. Alors, un en France, à Annecy, 7 en Amazonie. Annecy, c'est pour le tourisme alpin, c'est ça ? C'est les gens qui vont faire du ski ?
Tout à fait, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec laquelle on travaille très bien, ainsi que tous les départements. On avait déjà Lyon-Saint-Exupéry, Lyon-Bron, l'aéroport d'affaires de Lyon, Clermont-Ferrand en a parlé, Grenoble-Chambéry et Annecy, avec le conseil départemental de Haute-Savoie, ça complète cette offre d'aviation légère, d'aviation d'affaires pour et aussi de tourisme alpin, puisque en Haute-Savoie, comme en Savoie ou en Isère ou dans les Hautes-Alpes, on a les plus beaux domaines skiables du monde. Donc c'est très peu de mouvements d'avions, plutôt des petits avions, mais une logique de service.
Et saisonnier ?
Une logique très saisonnière. C'est ouvert toute l'année, ça commencera au début janvier, mais c'est une logique très saisonnière.
Et du coup, qu'est-ce que vous disent là les compagnies ? Parce que saison blanche l'année dernière, il n'y avait pas eu de saison de ski. Là, vous les sentez confiants ?
D'abord, avec la vaccination et les passes sanitaires, on imagine tous que les stations de ski vont être ouvertes cet hiver. Et après, l'un de nos marchés importants, c'est le marché britannique, qui vient massivement... en avion dans les stations. Et donc, il sera très important qu'on travaille avec les Britanniques, comme je le disais tout à l'heure, pour que, avec leur vaccination qui est très élevée, ils viennent en France et qu'il n'y ait pas une batterie de tests supplémentaires à faire, qu'avec le vaccin, la réciprocité joue, qu'ils puissent venir en France skier et revenir au Royaume-Uni après.
Alors, l'Amazonie, 7 aéroports en Amazonie, pourquoi autant d'aéroports d'un seul coup ?
L'Amazonie, c'est plus grand que la France. Le Brésil, c'est un continent et c'est un bel exemple pour nous de notre engagement environnemental. L'avion est indispensable en Amazonie, c'est immense. Et donc, on ne va pas tracer des routes et des TGV sur des dizaines de milliers de kilomètres. Donc, on a besoin de l'avion. Mais le choix de Vinci, impulsé par notre président directeur général, Xavier Huillard, ça a été d'être le leader de la transformation écologique. Donc, à Salvador de Bahia, il y a 5 ans, notre premier aéroport au Brésil, on a... une énergie complètement verte, des panneaux photovoltaïques. On traite toute l'eau et on la réutilise sur la plateforme. Et on a zéro mise en décharge, on a fait un laboratoire écologique reconnu par le Brésil. On va faire encore plus fort à Manaus, on va faire tout ça, des panneaux photovoltaïques, de l'énergie verte, y compris produire et donner au réseau des excédents d'énergie solaire pour l'approvisionnement. Mais en plus, on va participer à un programme de reforestation, parce que la forêt aujourd'hui, c'est la seule solution rapide pour faire des puits carbone et compenser les émissions de carbone.
En entendant tout ça, on se dit que vous auriez presque pu ouvrir l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes. C'est vous qui auriez dû le faire. Il a été abandonné parce que je n'ai pas assez écologique. Vous opérez l'aéroport de Nantes. Vous deviez être dédommagé pour le fait que vous n'allez pas avoir cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes, que le contrat a été tout simplement cassé. Alors, vous allez le payer ? Si oui, quand et de combien ?
Il y a des discussions au long cours. Les résiliations de ce type... prennent énormément de temps.
Là, ça commence à faire déjà quelques mois, voire des années. Donc
tout à fait. L'aéroport de Nantes y tourne. On continue de l'opérer. Donc le principe, c'est qu'on opérera les aéroports de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire le temps nécessaire. On ne connaît même pas encore la date de fin de ce contrat.
Ce que vous voulez nous dire, c'est que rien ne se passe pour le moment, quoi.
Si, il y a un travail de réaménagement qui a été engagé, qui fera l'objet d'une consultation par l'État. On ne peut évidemment pas en parler parce que ce sont des procédures de consultation forcément confidentielles. Mais pour notre part, on sera au rendez-vous jusqu'au bout dans les modalités de notre contrat.
Tiens, alors puisqu'on parle de contrat, il y en a un autre contrat important dont on parle beaucoup en ce moment, c'est celui de la concession des autoroutes. Parce qu'en fait, vous êtes aussi patron des autoroutes, pas des autoroutes, pardon Vinci, mais des concessions. Il y a un débat bien sûr autour de la nationalisation de nos autoroutes. Plusieurs candidats à la présidentielle avancent cette idée. Vous leur répondez quoi ?
Moi, je crois qu'il y a déjà eu ces derniers jours beaucoup de chroniques, y compris sur votre antenne, qui ont campé le débat et les positions. Moi, la seule chose que je peux dire, puisque je m'occupe des autoroutes internationales, c'est que ce modèle des autoroutes françaises, il est aujourd'hui reconnu et développé partout dans le monde. On a été retenu par le gouvernement russe.
Mais c'est pas ça que disent les candidats à la présidentielle. Ils disent que, un, vous gagnez trop d'argent, que vous avez trop de profits dans ces modèles de concessions sur les autoroutes, et qu'il serait possible de les nationaliser à très faible coût. Arnaud Montebourg dit que ça coûterait 5 milliards d'euros. Bruno Le Maire dit que c'est 40 milliards d'euros. Qu'est-ce que là, vous leur répondez sur la possibilité de la nationalisation ?
La question, c'est pas de débattre sous un angle politique. De telle ou telle somme. La question, c'est qu'il y a un contrat, il y a des contrats, et comme tout contrat dans le monde, je citais la Russie, mais aussi l'Allemagne, la Grèce, le Pérou, on est numéro un mondial des autoroutes dans le monde. Et si on est numéro un mondial, c'est parce que les pays du monde bâtissent des contrats dans leur droit local, la France comme les autres, qu'elles les respectent et que ça offre un service. Et service des concessions, c'est des autoroutes modernisées, un bon niveau de service, des investissements réguliers et de la durée.
Donc vous dites, on verra à la fin du contrat.
On dit, tous les gouvernements gèrent, et le gouvernement français comme les autres, efficacement ces contrats, dans l'intérêt de leur population. On est un prestataire au service des gouvernements. Et on a la faiblesse de penser que si on est reconnu mondialement, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce que les gouvernements du monde ont vu l'intérêt de la concession, qui leur permet d'avoir vite des infrastructures efficaces, et d'un prestataire mondial comme Vinci, qui leur offre vite et bien des infrastructures de qualité, une bonne qualité de service et le respect du contrat.
Alors Nicolas Notebaert, nous avons une tradition dans cette émission. Chaque jour, nous revenons sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association qui a traversé les années, voire les siècles. Et aujourd'hui, nous avons choisi une ancienne que vous devez croiser tous les jours dans vos aéroports, les relais.
Oui, mais est-ce que vous savez, quand les tout premiers ont été ouverts, nous on a découvert, hein, pour être très honnête, que c'était en 1852. Pourtant, on appartient au même groupe, le groupe Lagardère. Alors, petite fiche de révision avec notre saga du jour racontée par notre ami Quentin Paillet.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Que faire quand on est dans une gare ou un aéroport et qu'on a un peu de temps devant soi ? Manger, boire, lire un journal ou un livre. Et pour ça, il n'y a qu'un seul endroit, le relais. Tout commence à Paris, à la gare de Lyon, en 1852. Louis Hachette, le fondateur de la maison d'édition du même nom, crée la première bibliothèque des chemins de fer. Et depuis cette date, le concept a évolué et s'est étendu au monde entier. 1200 relais dans le monde, dont 500 en France, pays le plus important pour la marque. Dag Rasmussen, PDG de Lagardère Travel Retail.
Au départ, c'était les bibliothèques de gare. Ça, c'était l'idée de Louis Hachette. L'idée lui était venue lors de voyages en Angleterre. En 1984, le commerce avait beaucoup évolué. On a voulu faire des points de vente ouverts pour pouvoir s'exprimer commercialement. Et ça, c'est l'invention de Relais H qui date de 1984. En 2000, on a voulu internationaliser le concept et on a utilisé le mot relais qui maintenant est présent dans 24 pays, 1200 points de vente.
Chez Relais, tout part des livres, ils ont une place importante dans l'histoire de l'entreprise, c'est presque sa première raison d'être, à tel point qu'il existe depuis 1978 un prix littéraire, le prix Relais des voyageurs lecteurs. Aujourd'hui encore, avec les journaux et les magazines, ils occupent physiquement quasiment tout l'espace des points de vente.
Le livre est quelque chose qui est très important, c'est un petit peu le fil rouge de Relais, mais Relais s'adapte aux voyageurs, donc on vend plus de café que de quotidien, mais notre produit numéro un reste le magazine. Plutôt que de partir du produit, on part du voyageur. De quoi le voyageur a-t-il besoin ? À chaque fois, on essaye d'y ajouter une touche locale. Le voyageur, par définition, se déplace. Il n'a pas envie de voir exactement le même point de vente partout. Donc on a une offre, par exemple, de vin dans certaines gares de province, des souvenirs dans un certain nombre de points de vente aéroports. On s'adapte vraiment à la clientèle.
Même si Relais a installé quelques caisses automatiques dans plusieurs points de vente, pas de grande transformation technologique des boutiques. Pour le PDG du groupe, l'important est ailleurs.
Nous pensons qu'une de nos forces, c'est d'avoir du personnel, d'avoir du personnel formé, d'avoir du personnel qui renseigne, qui peut aussi donner des informations en dehors du magasin. En zone de transport, il s'agit qu'il n'y ait pas de queue chez nous. Il faut que notre service soit rapide, tout en restant aimable.
Le relais le plus important est celui de la gare de Lyon-Pardieu. En 2019, les 3600 clients quotidiens ont engendré un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros.
Et voilà le relais de la gare de Lyon. Un grand merci en tout cas, Quentin Payet, pour cette saga du jour. Nicolas Dodemar, le patron de Vinci Aéroports et Autoroutes, vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry,
Emmanuel Duteil.
Un jour, il faudrait qu'on diffuse ce qui se passe pendant les pubs parce qu'il y a beaucoup de discussions à chaque fois. On était déjà en train de challenger notre trophée de l'avenir Europe 1, la France bouge. Chaque jour, en effet, ils tentent de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant notre patron du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Nicolas Notebar, qui est le patron de Vinci Aéroports, et Nathalie Carré, bien évidemment, avec ses précieux conseils. Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie.
Bonjour, Stella Bouquet.
Bonjour.
Alors, vous avez 25 ans, vous êtes toute jeune, vous êtes ingénieure agroalimentaire et vous venez tout juste de lancer une marque de cocktail sans alcool, Ouzia, qui s'achète uniquement en ligne pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces cocktails? Vous allez nous expliquer, vous avez une minute pour ça, on vous écoute.
Bonjour à tous, donc je suis Stella, une des trois cofondateurs de Ouzia. Donc Ouzia propose une première gamme de cocktails qui sont prêts à boire, sans alcool, naturels, très peu caloriques et faits en France dans les Deux-Sèvres. Et en fait, l'idée nous est venue en fait, de faire ces boissons parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'apéritif, il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas consommer d'alcool, que ce soit les femmes enceintes, ceux qui doivent rentrer en conduisant, les personnes de confession musulmane, ceux qui vont faire du sport, qui se lèvent tôt ou qui ont des problèmes de santé. Il y a plein de raisons. Et pour toutes ces personnes, en fait, il n'y a pas forcément une alternative qualitative et festive aujourd'hui qui existe. Ils vont avoir des sirops, des jus, des sodas qui sont souvent moins festifs et très sucrés. Et donc, pour toutes ces personnes, aussi, arrive avec la solution. Nos cocktails, du coup, qu'on a travaillé avec des goûts très adultes, qui vont avoir, on les a travaillés autour de plantes. Il y a de l'amertume. Et voilà, en fait, tout ça nous permet d'avoir le même temps de dégustation que vous pouvez avoir avec des cocktails alcoolisés pour profiter du même moment de convivialité autour de l'apéritif.
Eh bien, bravo et pile sur la minute. Vous voyez, on arrive juste à la fin de la musique. Alors, je veux dire qu'il y a quatre produits, le Spritz, le Gin Tonic, une création originale rhum citron avec un distillé, m'a-t-on dit, de rhum désalcoolisé et le Green Spirit fait à partir de houblon, cascade et de maté, c'est ça?
C'est ça, exactement.
J'ai aussi donné le prix.
Ah oui,
3,50 euros la bouteille en verre de 27 centilitres et demi, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Bon, eh ben on a tout.
Alors Stella, comme chaque jour, Nathalie Carré, notre partenaire de CCI France, a scruté votre dossier pour voir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Bonjour Nathalie.
Bonjour Carole, bonjour Stella, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que vous en pensez Nathalie de ce projet de Stella?
Alors, effectivement, le concept de l'apéritif sans alcool, c'est cohérent avec le contexte, puisqu'on a une baisse de consommation d'alcool, notamment chez les moins de 30 ans. Puis, il y a une vraie cohérence avec le côté convivialité. Et puis, vous proposez des playlists de musique à l'arrière de votre bouteille qu'on peut écouter donc en prenant l'apéro. Puis, la dose, en fait, c'est l'équivalent d'un verre. Donc, ça évite de jeter. On dépasse rarement le verre. Enfin, ça dépend quand.
Oh bah oui, franchement.
Oui, oui, ça dépend. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Pardon.
Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre l'apéro avec vous et de voir qu'il y avait parfois un peu plus de
Chut, faut pas le dire. Alors, quelques points améliorés. Vous avez pris le parti de créer des boissons qui ressemblent, enfin en tout cas au nom, à des apéritifs connus, donc comme le gin tonic ou le mojito, mais sans alcool. Ça peut être à double tranchant parce qu'on parfois on peut s'attendre à avoir vraiment le goût de l'original, c'est ce qui doit pas être le cas. Donc, dans la description du produit, vous pourriez peut-être préciser quelle différence avec le vrai, en fait, pour qu'on s'induise pas nous-mêmes en erreur. Et puis, c'est pas simple de vendre une boisson en ligne. Donc, pour aider l'internaute à apprécier le goût, il y a une boisson, j'aime bien, vous mettez des notes herbacées de maté et fruitées de houblon relevées d'une note étonnante d'églantier. C'est joli, mais ça dit pas trop quel goût ça. voilà. Donc, c'est pas facile de choisir. Donc, vous pourriez aussi proposer des échantillons dans un contenant léger comme le carton pour un envoi facile par le courrier. Puis enfin, peut-être que vous pourriez construire tout un univers autour de l'apéro convivial, puisque c'est votre thème, avec des partenaires qui proposent des choses à tartiner, des jeux de société, etc., pour vous distinguer des autres acteurs, car vous êtes déjà très nombreux sur le secteur de l'apéro sans alcool.
Vous entendez les remarques de Nathalie, Stella?
Oui, totalement. Je rebondis notamment sur le dernier point qui est de s'accompagner d'autres acteurs du marché de l'apéritif. C'est ce qu'on compte faire vraiment par la suite. En fait, c'est tout récent, ça fait que 3 semaines qu'on a nos bouteilles. Et donc, le temps, voilà, que toutes les choses se mettent en place.
Mais je trouve qu'elle avait raison aussi sur le goût, puisque moi, typiquement, je ne bois plus d'alcool et ça me passionne du coup ce que vous racontez. Mais je m'étais fait la même réflexion en me disant, mais ça a quoi comme goût finalement? Et sur le fait comme ça de trouver des moyens, parce que quand on vend en ligne, c'est bien la grande difficulté, de trouver le moyen de nous faire découvrir pour derrière générer l'acte d'achat.
Oui, totalement. On est aussi en train de travailler sur un petit format miniature, justement, comme vous disiez, pour pouvoir envoyer des échantillons. Et après, pardon.
Allez-y, je vous en prie.
Et non, après, dès qu'on peut les faire goûter et affiner du coup la description des produits, on le fera.
Moi, j'ai retenu peu calorique, parce que souvent, ces produits sans alcool, ils sont extrêmement sucrés. Vous, il y a peu de calories, vraiment?
Oui, alors ça peut être très sucré parce que c'est pour contrebalancer l'amertume qu'on va ajouter à ces boissons pour justement aller vers des saveurs plus adultes et plus complexes. Nous, ils sont peu caloriques. C'est le parti pris qu'on a fait, c'était de proposer justement cette alternative pour toutes les raisons de santé et toutes les personnes qui en recherchent. Et donc, par exemple, sur nos boissons, il y a entre 15 et 24 calories pour 100 ml.
Nicolas Dodebar, je rappelle que vous êtes notre grand témoin du jour, le patron de Vinci Aéroports. Vous en pensez quoi, du coup, avec votre œil là d'entrepreneur, de chef d'entreprise?
Que du bien. Comme je le disais, l'économie, ça marche avec beaucoup d'innovation et beaucoup de jeunes. Nous, on aime bien ces startups, on aime bien être partenaires et ces produits nouveaux. On a des infrastructures. Alors évidemment, sur nos infrastructures routières, on ne peut les utiliser que sans alcool. Donc, c'est d'autant plus intéressant sur les aires d'autoroute et d'avoir ce type de produit. Et plus généralement aussi dans les aéroports, on souhaite rapidement mettre à disposition le plus vite possible.
Vous allez pouvoir lui donner un petit coup de main alors.
Oui, vous ne faites pas des opérations éphémères là?
Tout à fait, avec nos partenaires, puisqu'on a aussi des partenaires, vous avez mentionné Relais tout à l'heure, qui est très présent dans nos aéroports. Voilà, on a des partenaires qui gèrent les espaces. Effectivement, on les pousse à de l'innovation. On a celle-là très belle sur des produits sans alcool, mais aussi des produits écologiques. Je citais tout à l'heure, on essaye d'éliminer le plastique, on essaye d'avoir uniquement des produits en bois. Et donc, on met en place des chartes pour qu'à chaque fois qu'on peut avoir des nouveaux produits, avoir du service et aussi avoir plus d'écologie, et bien ça s'impose à toutes les boutiques dans nos aéroports, par exemple.
Nicolas Dodebar, vous êtes donc le président de Vinci Aéroports, notre grand témoin du jour. Et on remercie notre pitch du jour.
Stella Bouquet, bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Vous nous tenez au courant, on aime bien avoir des nouvelles de tous nos pitchers, comme on dit. Je rappelle que vous avez lancé Ousia, la nouvelle gamme de cocktails sans alcool fabriqués en France. Nathalie Carré, on vous dit également à demain. Et si vous voulez comme ça venir présenter votre entreprise, c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, @europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1, la France bouge.
Emmanuel Dutheil.
Ça passe chaque jour trop vite, c'est déjà la dernière partie de votre émission et pour cela nous sommes toujours avec Nicolas Dodebar, le patron de Vinci Europe 1.
Et avec Florence Bétinger, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la cofondatrice de Gobilab, la créatrice de la bouteille réutilisable Gobi. La protection de l'environnement, on va dire, c'est l'ADN de votre entreprise. Et vous avez donc voulu aller plus loin en participant à 1% Planète, une sorte de club mondial des entreprises qui finance les associations de protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, effectivement. Donc, Gobi, nous, depuis toujours, on accompagne les entreprises vers le zéro jetable, en fabriquant en France, en faisant assembler par des personnes en situation de handicap. Et notre engagement supplémentaire, c'est de reverser 1% de notre chiffre d'affaires au 1% pour la planète, qui est un club, effectivement, d'entreprises mondiales qui toutes s'engagent, quel que soit leur résultat de l'année. C'est-à-dire que même si on n'est pas en profit, on reverse 1% de ce qu'on a rentré en chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement.
Ah, c'est ça qui est important. C'est pas uniquement si vous gagnez de l'argent, c'est-à-dire que vous êtes prêt à en donner uniquement sur la base de votre chiffre d'affaires.
Exactement. Et donc, c'est vrai qu'en cette année Covid, ces deux années Covid, pour toutes les entreprises du 1%, et personne n'est parti, on a tous maintenu cet engagement.
Ah oui. On sait que la quête de sens est un critère extrêmement important chez les jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez que votre engagement vous permet aussi d'attirer tout simplement des talents ?
Alors, ça permet d'attirer les clients. Nous, c'est un critère de choix très important. Et puis, effectivement, en interne, tous les engagements, que ce soit sur la partie sociale, sur la fabrication locale et dans le 1%, sont importants, sachant qu'en plus, les associations auxquelles on reverse, c'est aussi des individus avec lesquels on est souvent en contact. Nous, on travaille avec Surf Rider Foundation, qui est une ONG qui protège les océans et qui a été une des plus importantes sur la sensibilisation attention autour de la réduction des déchets ces dernières années. Et nous, on a régulièrement nos équipes qui vont faire du ramassage de déchets ou dernièrement, ils étaient sur des rivières à scanner
sur leur
les
temps libre
pour comprendre le... Comment... Alors non, ça, c'est pendant les horaires de travail.
Eh ben, bravo pour cette opération, Nicolas Notbar. Je rappelle que vous êtes le patron de Vinci Aéroports. Si on faisait 1% du chiffre d'affaires de Vinci, l'un des plus grands groupes au monde, ça ferait pas mal de sous là, d'un coup d'un seul pour l'environnement.
Ben, je pense qu'on fait, sous un format différent, on fait cela. Et on fait cela comment ? Il y a un très bel exemple avec cette société. D'ici la fin de l'année, on va lancer les bouteilles réutilisables à l'aéroport de Lyon. Ce sera une première à grande échelle. Mais aussi toutes les innovations écologiques. Par exemple... traiter tous les déchets. On arrivera bientôt au zéro mise en décharge dans certains aéroports. En 2021, on aura les premiers. On revalorise et on traite tous les déchets. On traite complètement l'eau. L'eau, c'est très important pour la planète.
Oui, vous nous l'aviez dit, effectivement. Et vous faites beaucoup, vous avez beaucoup parlé de vos mesures environnementales. C'est indispensable aujourd'hui pour rester compétitif et gagner des appels d'offres ?
C'est indispensable pour, vous l'avez très bien dit, convaincre des jeunes qui sont l'avenir de nos sociétés, convaincre nos clients, mais aussi de concilier ces deux impératifs, la mobilité, parce que la mobilité, c'est la vie, c'est la paix, c'est la prospérité, et la sauvegarde de la planète. Et nous, notre rôle, c'est de concilier ces deux éléments, et c'est possible en étant leader de la lutte contre le changement climatique.
Merci Florence Bettinger, vous êtes la cofondatrice de GobiLab, qui propose donc des produits durables et membre donc de 1%. Planète.
Merci à vous Nicolas Notbar de nous avoir accompagnés pendant cette heure, patron notamment de Vinci Aéroports.
Demain vous retrouvez Elisabeth Assayag. Quel sera le programme Emmanuel?
Comme on est gourmand, on va recevoir la boulangère. Vous aimez sûrement leur brioche, je suis sûr que vous connaissez aussi leur pain. Et bien on va aller voir comment ça se passe chez eux, notamment avec les hausses de prix alimentaires en ce moment. Est-ce qu'ils vont augmenter les prix?
Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.
Leclerc. T'as vu que c'est bientôt la foire au vin chez Leclerc ?
Bien sûr, à partir du 28 septembre.
Ouais, le 28 en magasin. Sauf que moi, je commande à l'avance et en ligne depuis le 14 septembre sur e.leclerc. Comme ça, impossible de manquer la sélection des 53 incroyables et la sélection de vins bio.
14 septembre, e.leclerc ?
Et ensuite, tu te fais livrer et tu retires gratuitement ta commande en magasin ou en drive.
Oh, j'adore l'idée.
Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Le vélo rend le chemin du travail meilleur. Chez Decathlon, nous rachetons votre ancien vélo adulte ou enfant. Et jusqu'au 26 septembre, nous vous offrons en plus une carte cadeau de 15 euros pour toute reprise. Valable pour les vélos en bon état. Conditions sur le site occasion.decathlon.fr ou dans les magasins participants.
C'est quoi cet engin ? On dirait des lunettes avec des essuie-glaces intégrés.
Oui, c'est pour les mouettes. Hein ? Comme ça, elles pourront survoler la mer sans avoir de gouttelettes dans les yeux.
Mais ça sert à rien ton truc.
Pff,